Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Pascal Jacob.
Salut.
Jennifer Guillet.
Bonjour.
Et de Robert Rivard.
Bonjour.
Notre thème aujourd'hui sera « Bienheureuse insécurité ». Bienheureuse insécurité, c'est le titre d'un livre de Alan Watt, qui a été un des grands piliers du mouvement hippie des années 60. Qu'est-ce que ça veut dire, bienheureuse insécurité? On va en discuter aujourd'hui. On est dans une société aujourd'hui où les gens sont obsédés par la sécurité. Hein. Tout le monde a des assurances, tout le monde est bardé d'assurances dans tous les niveaux, mais de l'insécurité sexuelle, on sait, avec toutes les maladies, sécurité économique, insécurité politique. Et moi, je suggère d'être bienheureux dans ces moments d'insécurité au lieu de s'angoisser. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer?
Ben moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Et puis, c'est vrai, dans un sens, que l'insécurité, c'est comme une obsession à plusieurs niveaux.
La sécurité, tu veux dire?
Je veux dire, la sécurité, oui. L'insécurité est la peur, dans un sens, parce qu'être insécure, ça veut dire avoir peur, donc ça vient rejoindre la peur. Et cette poursuite de sécurité, c'est une obsession. C'est comme dit Watt, justement, dans son livre, retenir ta respiration, c'est te garantir de perdre ton air, tu sais. Donc, c'est essayer de contrôler un environnement qui est en mouvement constant. Donc, on est toujours en train de vivre dans un univers au niveau moléculaire qui est en changement constant. Et puis là, on veut contrôler, on veut créer des barrières, on veut créer une circonstance pour nous donner la capacité de pouvoir projeter dans le futur et d'avoir quelque chose qui va revenir et qui est contrôlable et qui est prévisible. Donc, c'est pour vouloir contrôler le futur. Et ça amène bien des complications, ça amène de l'isolement, ça amène même des fois à des montées des défenses pour se protéger de quelque chose qui, par nature même, est changeant. Donc, c'est contraire à la nature de l'être.
Je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à la peur. C'est vrai qu'une fois que tu as peur, rien ne marche. C'est comme si tu te mettais toi-même des bâtons dans tes propres roues. Tu as peur. Mais en même temps, les gens ont besoin, c'est même pas un désir, c'est le besoin d'avoir une sécurité, de qu'est-ce qui va arriver demain si j'ai pas ça aujourd'hui, si je fais pas attention aujourd'hui. C'est difficile de se laisser aller quand tu as peur. Ça, c'est une chose, mais la sécurité, je pense aussi, c'est une bonne chose de savoir où tu t'en vas, d'avoir une ligne droite linéaire dans ton chemin personnel de vie. Il y en a qui n'en ont pas parce qu'ils ont une totale confiance en tout. Ils se laissent aller, mais quand tu te laisses trop aller, tu ne peux pas prévenir le coup. Moi, je suis quelqu'un, je suis 50-50. T'sais, je peux me laisser aller comme que j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais. C'est même pas un désir, c'est vraiment j'ai besoin. C'est vraiment quelque chose qui m'insécurise si je n'ai pas une ligne droite. En même temps, j'aime pas être castrée dans mes propres idées, donc je me laisse aller. Mais pour ça, faut que tu sois bien entouré, parce que si tu es entouré de personnes qui sont complètement isolées ou qui sont complètement insécures aussi, tu pourras pas bien vivre. Tu pourras pas être. Tu sais, tu vas survivre à ce que tu es. Tu vas pas vivre.
Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi, parce que tu parles de limites, de la sécurité, etc. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'à un certain niveau, quand on a trop peur, on commence à trop contrôler. Et moi, je le pensais par exemple à un thème qui, moi, me touche, c'est le thème de la. Tout ce qui est nourriture, tout ça. Tu sais, des gens commencent à contrôler tout ce qu'ils mangent, puis ça devient une obsession. Quand je commence à plus manger, des gens qui commencent à faire trop de sport, parce qu'ils ont l'impression comme ça, ils vont contrôler des choses. C'est juste une question, une balance, je trouve, à trouver entre trop, puis comme pas assez. Puis c'est ça, je trouve ça dur de trouver la balance aujourd'hui, parce qu'on te dit comment être, on te dit comment penser, puis toi, ton chemin à toi là-dedans, il est où? Ça, je trouve, c'est vraiment une question intéressante, puis je trouve ça dur à trouver vraiment la barrière, puis chacun selon nos caractères, on a du mal à trouver cette balance-là.
Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Hein? Oui. Ça a commencé au moment où l'homme a commencé à se sédentariser. Parce qu'avant, sur la Terre, il y avait quelques sédentaires, mais il y avait aussi des gens qui étaient nomades. Mmh. Et chacun avait sa place. Mais quand les gens qui ont commencé à avoir de l'insécurité maladive, ils voulaient prévoir toute la nourriture qu'ils allaient avoir pour la nuit, ils ont commencé à prendre tout l'espace peu à peu. Et finalement, on est rendu sur une planète où il n'y a pratiquement plus d'espace pour ceux qui veulent être nomades. Puis ça, les nomades, ça comprend les animaux, à mon avis. Là. Ça comprend des animaux qui veulent bouger ou des tribus primitives. Ces gens-là n'ont plus d'espace. Et ces gens-là vivent dans la bienheureuse insécurité. C'est-à-dire que ces gens ont beaucoup d'intelligence, à mon avis. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 heures par jour. Le reste du temps, ils font l'amour. Ils racontent leurs rêves. Ils s'amusent. Ils jouent. Qui peut dire ça aujourd'hui dans notre société, qui s'amuse? Les gens travaillent tellement comme des fous, ils s'amusent plus, ils arrivent le soir, ils sont fatigués, ils ne font pas l'amour avec leur compagne, leur compagnon, et puis ça remonte à très longtemps. Et donc c'est très profond dans nos gènes, cette insécurité ou cette maladie de la sécurité.
Là. Oui, c'est à deux niveaux. Il y a un niveau externe puis un niveau interne. Niveau interne, je crois vraiment que c'est comme si dire qu'il y aurait des mécanismes. Je le vois moi presque comme une circuiterie, parce que je vois le corps maintenant comme de la technologie. Je ne le vois plus comme une chose, comme on dirait, entre parenthèses, naturelle. Le corps, on dit qu'il est naturel, mais je le vois maintenant comme un produit de technologie. Et dans cette technologie très avancée, parce que mes études récentes qui m'ont amené à devenir massothérapeute m'ont amené à voir l'intelligence du corps et la complexité de celui-ci également. Et je vois maintenant que quand je vois le corps comme une technologie, je vois qu'il y a des mécanismes là-dedans qui amènent aussi le mécanisme de la peur et de l'insécurité. Fait qu'on a d'un côté des tendances du corps même à créer cette peur. Pourquoi on a peur de toujours avoir pas assez à manger, par exemple? Tout le monde a cette peur-là. D'où c'est que ça vient, ça? C'est vraiment externe, ça. Et l'autre chose, c'est tout ce qui est à l'externe de nous, la propagande constante de la peur, les nouvelles de 6 heures, tout ça. On a une propagande constante qui nous mène à avoir des choses limitées, des inquiétudes sur l'abondance. Bref, ça engendre une programmation, ça engendre une domination, un contrôle encore là.
Ben, bref, c'est voulu. Là, part des ploutocrates, là, ces gens riches qui tablent sur cette insécurité. Ils vont créer une insécurité dans la bourse et puis tout à coup, tout s'effondre. Mais tous ces gens avaient déjà vendu leurs actions et ils vont racheter après. Il y a une manipulation qui est très perverse aujourd'hui, qui joue sur cette insécurité. Hein. Moi, j'ai toujours refusé d'avoir une assurance, pardon. Moi, je ne suis pas assuré. Mon assurance, c'est l'abondance de l'infini. Je me dis, si jamais il m'arrive quelque chose, si ma maison brûle, si je perds quelque chose, j'ai toujours eu à des moments précis de ma vie où j'avais besoin d'argent ou besoin de quelque chose, j'ai reçu cet argent par l'action du Saint-Esprit, on pourrait dire par un miracle. Et c'est arrivé souvent, pile, là, j'avais besoin de 1 500 $. J'ai reçu 1 500 $ cette semaine-là. T'sais, c'était toujours précis pour me montrer, gars, il n'y en a pas plus là, que tu peux mettre dans tes poches. Tu voulais publier ton livre? Bon, ben, gars, vas-y, tiens, 1 500, publie ton livre. Et puis, moi, j'ai appris à vivre dans cette insécurité. Je l'ai souvent répété. J'ai été sur l'aide sociale. Parce que je trouve que l'habitude tue le génie. Et je me veux un génie. Je veux être génial. Mais le génie fonctionne pas très bien dans la routine. Donc, tous ces gens qui prévoient tout à l'avance, là, j'ai même un client là, qui s'est acheté un serveur pour les 15 prochaines années. Ils sont pourris, le service est pourri, mais il est pogné avec eux pendant 15 ans parce qu'il est insécure. Moi, je veux payer à l'année. Mais, qu'est-ce que vous avez
dit? Oui, sans parler du développement technologique dans 15 ans, imagine quel genre de serveur... je ne sais pas, est-ce qu'il a acheté le serveur? Ou
non, il y a loin d'espace, mais il a pris le... J'ai jamais vu quelqu'un qui a pris le forfait 15 ans. Tu sais, c'est comme, voyons...
Mais c'est parce que tu ne sais pas 3. Ce qui va arriver dans 15 ans. Là, oui, ça se peut puis, que...
Même l'aspect légal peut changer les choses. Uh-huh.
Plein puis la compagnie peut se fermer aussi, c'est entre-temps.
C'est absurde. Ça, c'est vraiment une insécurité, je trouve... un niveau profond. Je pense que c'est même plus professionnel, c'est personnel pour cette personne-là. Ça vient d'en dedans, là. T'sais, j'ai déjà connu quelqu'un qui prévoyait les 2 années prochaines de sa vie. Moi, je...
Tu veux dire comme tout?
Mais c'est ça, tout. Je peux comprendre que tu prévois aller à l'école, mais tu sais pas si tu vas aimer ça, si tu vas rester ou pas. Tu sais pas. Moi, je pense que vivre au jour le jour, c'est la meilleure affaire, mais en même temps, tu planifies pour si toutefois les choses marcheraient pas, comme un plan B. Moi, j'aime bien avoir un plan B, mais si les choses marchent pas demain, OK, je vais continuer de vivre. Mais tu sais, il y a cette mentalité aussi qui vient de en haut, là. Tu dois travailler pour avoir ton pain. Tu dois, tu sais, il y a toujours ce côté reconnaissant. Si tu ne sécurises pas ton avenir, ben, t'auras rien en retour. C'est cette idéologie qui est un peu absurde parce que il y en a qui ont rien, qui ont planifié que dalle. Exemple, Bill Gates. Il a planifié que dalle, là, lui. Il est juste allé à l'école, il a lâché après 6 mois et maintenant il est là. Et je pense que c'est une question aussi de confiance. Quand t'es bien, tout va bien aller, là.
Ce que je trouve intéressant, ce que tu dis.
Tiens ton idée, ouais, on va. On va faire une pause musicale avec Ariane et une chanson qui s'appelle « Ma version du bonheur ». Puis on revient après la pause avec ce thème « Bienheureuse insécurité ».
Les jours où t'as de la peine, tu pourras te blottir dans ces sons. Une mélodie que tu vas retenir, des mots qui te feront sourire et qui t'aideront à trouver le temps moins long. Que une chance, tout ce que j'ai. Donc fais ce que t'en veux. Si tu l'aimes pas, tu peux le crier. Ou lui mettre le feu. Ben, moi j'ai aimé ma tête, mes mains et mon cœur. Moi j'ai aimé. Voici ma version du bonheur et je l'ai fait pour toi. Donne-moi du papier, je te griffonne une histoire. À la peinture à l'eau, je dégrise les trottoirs. Viens te balader dans mes sorties, promener dans mes espoirs. Laisse-moi t'émouvoir. Et que tu sors, tout ce que j'ai. T'en fais ce que t'en veux. Si tu l'aimes pas, tu peux le crier. Oui, mettre le feu. J'ai aimé ma tête, mes mains et mon cœur. Moi j'ai aimé, voici ma version du bonheur. Et je l'ai fait pour toi. Donne-moi de la laine, je tricote une chanson pour ce jour où ta peine voudra se blottir tout au fond. Écoute ça, c'est tout ce que j'ai. N'en fais ce que t'en veux. Si tu l'aimes pas, tu peux crier. Oui, mettre le feu. Mais moi j'ai mis ma tête, mes mains et mon cœur. Moi j'ai aimé. Voici ma version du bonheur et je l'ai fait pour toi.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Bienheureuse insécurité ». Beaucoup trouveront ce terme un peu bizarre. Alan Watt avait mis des inverses. Il aimait bien ce que lui appelait ça l'effort inverse. Il disait « Quand on tente de rester à la surface, on coule. Et étrangement, quand on essaye de rester à la surface, non, c'est le contraire. Quand on essaye de couler, on flotte. Et c'est souvent ça dans la vie. Quelqu'un qui veut se sauver, qui veut tellement se sauver, il réussira pas. Il en met trop. Il y a un lâcher, un laisser-être, à mon avis, qui est important.
Il y avait justement mentionné dans le livre également, celui qui cherche absolument à sauver son âme est garanti de le perdre. J'ai trouvé ça très bon. Hein, comme c'est parce que ça demande de mettre en marche des efforts, des choses qui sont, comment on dit ça, insane, sont folles. Si tu cherches une garantie de la vie... c'est s'éloigner de vraiment de la nature de l'être. Puis c'est un peu ça le problème, la racine, d'après moi, c'est que tout le monde tombe dans le panneau de l'illusion et puis on s'éloigne de notre essence réelle. C'est ça la source du problème.
Moi, je dirais aussi que c'est un manque de confiance. Quand on se fait pas confiance, on a peur de ce qui va arriver demain, peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, peur de manquer de sexe, peur de manquer d'inspiration. Mmh. Moi, ça ne m'arrive pas. J'ai une confiance hyperbolique en moi-même. J'ai confiance en... Je sais que je vais toujours avoir de l'inspiration, que j'aime parler, que j'aime rencontrer des gens, que ça va bien dans mes projets. Tu sais, j'ai toujours eu... Mais maintenant, avec le travail, ça va bien. Donc... Mais j'ai même à l'époque où j'étais sur l'aide sociale, que je n'avais pas d'argent, je dois préciser que quand j'étais sur l'aide sociale, je ne travaillais pas non plus en dessous de la table. Je n'allais pas me chercher. Je vivais de rien, pratiquement. Mais j'avais confiance. Je savais que tout allait m'être donné. Puis c'est vrai, si je regarde pendant ces années folles, tout m'était donné. Si j'avais besoin de quelque chose, on me le donnait. Et je n'avais pas besoin d'assurance, je n'avais pas besoin d'auto, je n'avais pas besoin de... Tu sais, je trouve que ces gens qui ont tout, qui ont beaucoup d'assurance, qui ont beaucoup de possessions, ils travaillent tellement fort juste pour payer les intérêts de leurs dettes que finalement, ils ne se sentent pas libres. Et c'est un peu un problème. Et ça, c'est la grosse insécurité. Il faut prévoir tout là, jusqu'à la fin. Donc, on se marie, on signe un contrat, on achète une maison, on n'a pas l'argent, on signe un contrat, on a besoin d'une auto, on signe un contrat, mais on payera plus tard. Et c'est un peu insécure, à mon avis. Là.
Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, puis toi, tu l'as évoqué, pour moi, c'était ça le mot-clé. Quand j'ai lu le thème de la semaine, ça, c'était tout de suite la confiance, parce qu'on parlait de confiance à différents niveaux, mais pour moi, c'est aussi, à un moment donné, la confiance que tu mets dans la vie en général. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, moi, elle m'a toujours apporté comme si j'ai besoin d'argent, hop, ça arrive. Moi, je sais que j'ai beaucoup remarqué que... À un moment donné, la vie, elle m'a apporté comme certaines amitiés qui ont été super précieuses. Plus que ça, j'ai toujours eu plus ou moins... On le perd de vue, je pense, quand on a moins de temps ou quand on est dans nos affaires, quand il faut gagner d'argent, quand il faut faire tout ça, quand on est dans le quotidien. Mais quand on arrive à se poser deux minutes puis à réaliser, oui, la vie, elle m'a donné ça, elle m'a apporté ça, j'ai rencontré telle personne, puis ça arrivait un super bon moment. Puis même pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai regardé, puis c'était vraiment par hasard. Puis c'est pour ça que je parle aujourd'hui à l'antenne. Donc c'est à quel point tu fais confiance à la vie. Puis pour moi, c'est vraiment ça qui arrive à l'essentiel de ce qu'on est. Puis pour moi, c'est ma façon de me connecter au monde, c'est ça aussi. Comment je suis connectée à la vie, c'est lui faire confiance, puis voir que... Puis la remercier quand elle m'apporte des choses, ça semble bizarre à dire, mais moi, j'ai tendance beaucoup à penser merci la vie pour tel ami, merci la vie pour telle chose ou telle expérience que j'ai vécue. Puis pour moi, c'est super.
Tu sais, les animaux ne vont pas nécessairement remercier, mais ils vont vivre comme ça. Mmh. Tous les animaux vivent au jour le jour. Un oiseau ne va pas penser à des assurances. Même si l'écureuil met des noix dans la terre, il ne va jamais les retrouver, ces maudites noix. Il y a de la neige l'hiver. Fait que il fait pas ça genre parce qu'il a peur. Il fait ça, c'est dans sa nature de faire ça. Mais on regarde les animaux, puis c'est une angoisse très humaine. Là. C'est la conscience d'être conscient et la peur de manquer qui, finalement, nous gâche la vie si on la subit.
Oui, exactement. Il faut vraiment être conscient, se ramener au présent et avoir une source de référence pour essayer de faire la distinction entre cette fausseté et la vérité et notre essence énergétique et tout ça. Donc, c'est ça qui me ramène, moi, dans mon cas, avec la vérité puis l'hologramme illusoire de ce qu'on vit. Là.
Et le mental fait souvent un problème, à mon avis. Là. Tu sais, j'ai une amie, par exemple, elle a peur de perdre son emploi, puis tout, mais tu sais, elle est super bien informée. Elle est une spécialiste dans son domaine. Mm-hmm. Puis je lui dis, l'année passée, quand tu as cherché un emploi, combien que ça t'a pris de temps? Sa première entrevue, elle était acceptée.
Ah.
Mais tu sais, quand le mental puis les insécurités viennent, on perd de vue l'opérationnalité du miracle. Disons, chercher un appart, c'est complètement dur. Mais si on le fait en harmonie avec soi-même au bon moment, C'est facile. La dernière fois, ça m'a pris... J'ai visité 3 appartements, mais j'étais connecté. J'écoutais mes rêves, j'écoutais mes ressentis quand j'entrais dans la maison, mm-hmm. les ressentis de la personne avec qui j'étais. Puis c'était magique. J'ai opéré le miracle. Mm-hmm. Dans ce temps-là, ça devient facile. Mm-hmm. Puis cette insécurité, elle est bénie parce qu'il t'arrive finalement... Moi, il ne m'est jamais rien arrivé. J'ai 39 ans, puis j'ai rien de grave qui m'est arrivé. J'ai jamais manqué de rien. Donc, je suis la preuve vivante que c'est possible de ne pas trop s'en faire avec ces choses-là, tu sais, puis d'être heureux.
Je pense que c'est Mark Twain qui avait dit « J'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie. La plupart de mes problèmes ne se sont jamais arrivés. Tu sais. C'est ça. Ils ne sont jamais manifestés. »
Il y a des choses que vous avez dit que je trouve vraiment intéressantes, le mental et la conscience. Mm-hmm. C'est vrai que quand ton mental embarque, ça freine. C'est comme si c'est un vide. Tu te lances dans quelque chose que tu n'as pas de point de repère, rien. Puis en même temps, la conscience, quand tu es conscient que ton mental y a embarqué, mais ben là, c'est comme un remède, je dirais. Mm-hmm. Tu es comme, enfin, OK, là, je vois que le problème, c'est pas de l'extérieur, c'est moi. Mm-hmm. Et une fois que tu as fait ça, on dirait que tout se met en place tout seul. Mm-hmm. Tout arrive seul. Puis moi, je me suis toujours dit, ne jamais chercher les bébites, ça sert à rien. C'est vrai, si tu cherches tout le temps, oh, qu'est-ce qui va arriver? Oh, non, on dirait que tu vas en avoir plus. T'sais, donc, tu laisses les choses venir vers toi de manière naturelle. Ma mère, elle dit tout le temps, mais ça, c'est un conte haïtien qui dit que laisse le ruisseau tomber dans la rivière, tomber dans l'océan. Il faut vraiment que tout coule. Il va y avoir quelques vagues, mais ça va vraiment couler quand même. C'est de l'eau. Ça va être homogène quand même. C'est vraiment, puis c'est vrai, dans la vie, il faut que tu te laisses aller puis embarquer. En même temps, ton énergie interne va attirer tout ce qui est bon. Si tu es quelqu'un de bon, ça va tout devenir tout seul. C'est comme un aimant. Fait que le côté insécure ne devrait même pas exister parce que ton énergie va faire en sorte que, waouh, je suis entouré de bonnes personnes. Tu sais, il y a peut-être 3 ans, je trouvais que c'était dur, mais après ça, je trouvais ça, j'ai rencontré Nicole. Je vous ai rencontré vous autres. Tu sais, c'est fou comment que quand tu es bien avec toi-même, tout arrive bien, là, au bon moment, avec les bonnes personnes et au bon endroit.
C'est ça. Puis il faut être à l'écoute. Sinon, on est toujours au mauvais endroit. Il y en a qui ont cet art de toujours être au mauvais endroit, au bon moment. Mm-hmm. Il arrive toujours un peu à l'avance ou un peu en retard de l'événement qui doit se passer. Il y a un timing dans la vie qui est super important. Mm. Moi, j'ai beaucoup appris avec mes animaux, avec mes chats, au niveau de l'insécurité. Tu vois, c'est ce qui tue, je trouve, souvent les relations d'affaires, les relations d'amour aussi. Mais moi, je n'ai jamais eu de contrat avec mes clients. Je ne veux pas signer de contrat. Je veux travailler dans la confiance, dans le plaisir. Puis jusqu'à maintenant, mes clients, ils aiment ça. Okay. Mais avec mes chats, par exemple, ça finit par mourir. Un chat, c'est ça, rapidement, tu sais, après 10 ans, 12 ans, 15 ans. Moi, j'ai eu un petit chat, il a 2 ans. Il est mort à 1 an et demi. Tu sais, il s'est fait frapper par un auto. Et ça m'a... J'avais un chat qui était mort il y a déjà comme 3 ans avant, qui lui était plus vieux. Et ça m'a comme cassé, dans l'attachement. Tu sais, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je m'attache maladivement au chat, mais à tous les gens autour de moi. Tu sais, je l'avais déjà compris, mais j'avais jamais personne dans ma vie qui était mort. Et puis là, j'ai compris. Tu sais, là, j'ai d'autres chats. Puis je ne suis pas attaché à eux. Je les vois partir. Il y en a une qui monte tout le temps sur les toits, tu sais, à 3-4 étages de haut. Des fois, je ne suis pas capable d'aller la chercher. Je me dis, un jour, elle va peut-être tomber. Donc, j'ai appris à me détacher. Puis je fais la même chose en amour. Je me dis, pourquoi? Je vais faire confiance. Si la personne est là dans 20 ans, elle sera là. Je ne vais pas me gâcher la vie maintenant en me disant peut-être qu'elle ne sera pas là. C'est ce que beaucoup de gens font. Et c'est ça gâche souvent la relation, je trouve.
Je trouve qu'on doit accueillir l'insécurité. C'est important de l'accueillir. Et en même temps, je pense que le prérequis pour ça, c'est de reconnaître que nous sommes d'abord et avant tout éternels. Et c'est cette nature-là qu'on oublie. Parce que si tu es éternel, quelle inquiétude as-tu?
Les inquiétudes de Dieu, comme les dieux grecs. Là. Ça peut être des petits drames.
Sont les dieux grecs aujourd'hui, s'ils sont éternels?
Encore au même endroit. Hein. C'est les gens qui ont arrêté de croire et de rendre vivant. Mais cette partie de la réalité est encore extrêmement vivante. Les anges, les êtres d'essence énergétique, les grands maîtres ascensionnés sont toujours là. Ils ont toujours été là. C'est nous, les êtres humains, qui vivons à très, très court terme, qui, pour la majorité, n'ont n'ont pas la capacité de voir qu'ils sont encore là. Les dieux grecs, c'est des énergies qui ont pris la forme chez les Grecs d'une certaine forme, mais qui la même énergie peut être vue par un autre peuple, et c'est les mythes. Pour moi, j'ai beaucoup étudié les mythes. Les mêmes mythes reviennent dans toutes les civilisations depuis le début. C'est toujours les mythes, le mythe de la grande mère, le mythe du sage, le fou. C'est des choses qui reviennent toujours, malheureusement.
Mais tu parlais des anges, par exemple. Je trouve ça intéressant parce que c'est une question de croire en l'invisible aussi. Puis ça, moi, je trouve que ça te fait, si t'es un peu ouvert à tout ça, peu importe si c'est un ange, un dieu, ce que tu veux, là, c'est une question de croire à l'invisible. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais revenir après parce que je trouve ça vraiment...
Oui, mais on va y revenir, parce que pour vivre dans le visible, tout en sachant qu'il y a de l'invisible autour de nous, ça prend beaucoup de sécurité en soi-même. Et on va faire une pause avec une chanson de MV qui s'appelle Sois zen. Puis on revient après la pause avec Bienheureuse insécurité.
C'est la vie qui nous fait aller plus loin, plus loin, plus loin. La fin, plus loin, plus loin, plus loin. La mer, le sable fin. Le plaisir n'a pas de prix. Le rendez-vous se fait ici. Si je te prends la main, c'est pour t'emmener plus loin, plus loin, plus loin, plus loin.
De retour à propos sur le bonheur, notre thème aujourd'hui est « Bienheureuse insécurité ». On avait commencé à aborder le thème de l'invisible. Aujourd'hui, il y a une grande insécurité dans l'invisible. Moi, je connais tellement de gens qui ont peur de l'invisible, peur des morts, peur de ci, peur de ça. Mais pour moi, c'est évident que quelqu'un n'est pas différent avant d'après. Il y a des gens dangereux sur la Terre, il y en a des gens dangereux dans l'invisible. Mais si ton oncle, par exemple, était quelqu'un qui t'aimait et puis il est mort, pourquoi avoir peur de lui? Je pense qu'il faut devenir un peu plus adulte et s'éduquer au niveau de l'invisible, parce qu'on ne devrait pas être insécure. L'invisible fait partie de la réalité. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, toi, sur le sujet?
En fait, moi, j'ai une petite comme anecdote à raconter par rapport à ça. Il y a quelques années, moi, c'était avant de venir ici, donc je suis ici depuis environ 4 ans, j'avais comme une vingtaine d'années, puis j'étais à un moment de ma vie où vraiment je commençais à me poser des questions, pas que sur moi, ce que je voulais faire, mais c'était beaucoup plus large que ça. C'était en quoi je crois, en quoi je crois pas, où elle est ma spiritualité, qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité. Donc je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Puis je suis tombée sur un livre, en fait, que je trouve vraiment intéressant pour... Les anges ou peu importe, mais en tout cas ce livre-là s'appelle Dialogue avec l'ange. C'est un livre de Gita Malaz et c'est un livre un peu cryptique, un peu énigmatique sur 4 personnes qui ont vécu à travers l'un d'entre eux, en fait 4 étudiants en art. Il y a un ange qui est passé parler pour leur apporter une parole, en fait, une parole de l'invisible. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un livre intéressant, puis je l'ai lu, puis c'est un livre qu'on peut pas lire d'un coup, mais chaque petite chose traverse à l'intérieur, puis on en apprend beaucoup. Et moi, je me souviens, à un moment donné, je marchais dans le jardin du Luxembourg à Paris, qui est un jardin dans lequel j'ai toujours trouvé la paix, puis le calme, puis je cherchais vraiment des réponses, puis plus ça allait, plus j'ai cherché, puis j'étais en train de lire ce livre-là en même temps. Et à un moment donné, c'est comme... quand j'ai commencé à marcher, il faisait très sombre. Et à un moment donné, il y a eu une éclaircie dans le ciel. Il y a eu comme un apaisement. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que j'ai ressenti, mais l'ambiance autour de moi a comme changé. Et puis là, je me suis sentie tellement en paix, puis tellement comme si j'étais connectée à quelque chose de profond. C'est quelque chose que je raconte peu, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Comme, ok, je me suis sentie calme d'un coup, comme si toutes ces angoisses, puis tout. Et j'ai senti que peut-être j'avais pas la réponse, peut-être j'avais pas encore pourquoi, peut-être j'avais pas exactement où était ma spiritualité à ce moment-là. Mais j'ai senti qu'on m'apportait comme une première réponse de ça existe, puis tu vas le trouver. Et donc à partir de là, il y a eu comme un virage dans toutes mes peurs, tout le côté qui était pas bien, c'est un peu mis de côté, parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais et trouver ma voie, et trouver ma réponse. Et c'est pas si longtemps après ça que finalement je suis venue ici, puisque ça a changé pas mal de choses pour moi. Donc ça fait partie des choses que je trouve, c'est une question de confiance en l'invisible. Ça peut être en les gens qui sont plus là, qui nous accompagnent. Moi je suis persuadée que, comme toi, là, qui s'arrêtent pas d'être avec nous. Mais ça, voilà, moi ça a été ma première réponse de l'invisible, ce que ça peut faire et quel pouvoir peut avoir sur notre vie à nous. Et puis j'ai trouvé que c'était une belle leçon, parce que ça m'a appris vraiment beaucoup de choses.
Ça m'évoque une image du funambule. Le funambule, s'il a confiance, il marche, il fait ce qu'il a à faire, il va droit devant, tout va bien. Mais s'il commence à regarder en bas, il se pose trop de questions, il stresse et il risque de tomber. Et c'est souvent comme ça dans la vie.
C'est une bonne analogie. Cependant, je pense pas que la mise ou le risque est aussi élevé que le funambule qui est à une si grande hauteur. Je pense qu'avec une pratique consciente de respiration méditative, pour moi, c'est le pont. C'est le pont numéro un avec l'infini et avec la nature de soi infinie. C'est ce qui manque, je pense, dans la plupart des gens, qu'ils ne font pas d'une manière régulière. Et puis, c'est vraiment la porte, c'est vraiment le retour, c'est vraiment l'entrée. Puis, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir... tu commences mardi, puis mardi soir, tu es devenu illuminé. Ce n'est pas quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est même... c'est te redécouvrir toi-même, puis redécouvrir quelque chose que tu as oublié. Parce que c'est vieux, puis c'est ancien, puis c'est toujours là. Et puis, c'est confortable, et puis c'est toi-même, puis c'est plus toi-même que toi-même. Et puis, c'est par le respire qui n'amène pas le mental à faire partie du jeu. Quand tu as parlé tantôt de ton expérience aux Champs-Élysées, au Jardin du Luxembourg, t'as dit, c'est vraiment ça qui m'a frappé. Et puis, en même temps, cette approche-là du respire, moi, amène à l'analogie dans le film de La Matrice, où à un moment donné, Neo dépasse la description visuelle des choses et rentre dans la matrice comme telle. Ce partnership avec la réalité dans laquelle on a besoin de se sentir à l'intérieur. Une référence très forte et très puissante, immuable et qui est personnelle. C'est la source. Il faut avoir un quartier général. Il faut avoir le retour à la source d'abord et avant tout. Ça ne se fera pas avec l'activité mentale ou juste le niveau émotionnel qui sont importants, ouais. Mais qui sont pas...
C'est sûr que c'est vrai. Tu amènes un bon point que pour moi, pour être bien heureux dans une insécurité totale, il faut être centré. Je me rappelle que moi, j'étais toujours centré. Mes bandes dessinées, je faisais de la musique. Mon art me gardait toujours centré et me donnait une confiance totale alors que je n'avais pratiquement rien. Mais moi, je venais en même temps de la classe moyenne. Tu sais, j'étais habitué à la vie de la classe moyenne et je voulais vivre. C'est quoi la pauvreté? Mais je n'étais pas pauvre. Je veux dire, j'étais pauvre parce que j'avais pas d'argent, mais je n'étais pas pauvre dans ma tête.
L'inspiration.
Mon appartement n'avait pas l'air de quelqu'un qui ne travaille pas. Là. J'allais chercher des choses à l'extérieur. J'étais très débrouillard. J'avais une compagne à cette époque-là. J'ai jamais manqué de rien, mais il faut vraiment se faire confiance pour dire « fuck the rest ». J'ai pas le goût de travailler, je travaille pas. N'importe qui d'autre n'aurait pas été capable de faire ça.
Puis vraiment, là, on n'a pas vraiment besoin de faire un effort énorme pour survivre aux besoins de base. Si on parle d'un toit, on parle de manger assez. Hein. Mais la plupart des humains ne seront pas satisfaits avec ça là, comme objectif, on s'entend. Mais si on le regarde en termes de la base... je voulais dire ça, mais aussi, on a parlé de trucs... pratico-pratique. Moi, j'ai amené la respiration puis une technique méditative. Il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, j'en ai adopté une particulière qui est très profonde pour moi. Mais il y a aussi d'autres choses. Tu viens de dire l'art, que les gens s'occupent avec qui choisissent une modalité artistique. C'est tellement... ça nous élimine les pensées d'inquiétude que ce soit danser, ou la peinture, la musique, quoi que ce soit. Manger consciemment, de lire des bons livres, hein, s'inspirer de la lecture. Tu as déjà mentionné ça, toi, Pascal, l'autre jour, sur l'émission, de ne pas entretenir des dettes. C'est vraiment, c'est un baume pour l'esprit, ça, de ne pas avoir des dettes. C'est une chose épouvantable, les dettes. Puis, tu sais, après ça, c'est toutes sortes de choses qu'on peut créer dans notre quotidien, que ce soit des stratégies de transport. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de communiquer, on a besoin de transport, on a besoin de manger. Il y a des stratégies de transport. Posez-vous la question en ville, avez-vous besoin de posséder un véhicule ou avez-vous besoin de l'usage d'un véhicule?
Mais tu vois, moi, je réfléchis justement à ce sujet, puis je me rends compte que les gens sont insécures parce qu'ils n'ont pas d'amis, parce qu'ils n'ont pas de contact. Mmh. Si tu as une communauté, tu manques de rien. Tu as toujours du transport, tu as tout ce que tu viens d'énumérer, tu as toujours ça, tu as toujours de l'appui. Oui. Mais les gens sont individualistes aujourd'hui, donc je pense qu'ils compensent en ayant du cash, en ayant leur propre auto, leur propre maison, des choses qui font que ça monte en même temps l'inverse, que cette personne-là est incapable de connecter. Moi, je préfère vivre en communauté où si j'ai besoin d'aide, là, je vais recevoir de l'aide. Et quand moi, j'en ai, moi, je suis à un moment de ma vie où là, je peux maintenant faire des cadeaux. J'achète du linge à ma compagne, alors qu'avant, c'était ma compagne qui m'achetait du linge il y a une dizaine d'années, puis j'avais pas d'argent. Mais je renvoie l'ascenseur, mais c'est pas la même personne, c'est plus la même compagne. Mais pour moi, c'est le geste. Maintenant, je peux le faire, et puis ça me fait plaisir, parce que j'ai confiance. J'ai confiance, je vis dans cette insécurité, moi, parce que je suis travailleur autonome, j'ai pas de garantie, moi. Ma seule garantie, c'est mon imagination. Oui, chaque semaine, je trouve des nouvelles manières de me renouveler. Là, j'ai commencé à faire de la photo, à faire de la vidéo, et je me suis équipé. Donc, toujours d'avoir des nouvelles idées, pour moi, ça me permet de rester dans cette insécurité qui est tellement bonne pour mon imagination. C'est quand t'es un peu en stressé, angoissé, que tu as les meilleures idées. En tout cas, dans mon cas, si tout va trop bien, ben ça donne trop un roman. Ça va donner comme un roman pour les vieilles madames, là, tu sais, Harlequin. Là, tu sais.
Oh mon Dieu! Alors, tu as dit un très bon... Mais les deux, un très bon point d'avoir un hobby, en fait, de compte. Mais bon, je ne parle pas d'aller jouer au golf, parce que c'est tellement plate, mais je pense...
Mini-botte.
Oh, c'est tellement plate. Mais un hobby qui va stimuler ton intellect et ta vraie personne, ta vraie nature. Pendant des années, j'ai joué au théâtre juste pour jouer au théâtre. C'était pas une carrière et j'étais pas obsédée. Et c'était juste pour laisser aller parce que je travaillais 40 heures semaine. Et faire ça, ça m'a vraiment... Wow! Je me suis laissée aller dans des zones assez wow. Mais tu sais, et j'ai rencontré comme ça des gens comme moi qui étaient attirés vers quelque chose de plus qu'un besoin matériel, un besoin physique. C'était plus que ça. Et en même temps, ça m'a donné un chemin sur qui j'étais vraiment. Moi, pendant longtemps, j'étais sûre que j'étais faite pour la bureautique. Parce que j'étais très ordinateur et ouais, j'étais sûre que j'étais faite pour ça. Puis en faisant du théâtre, j'ai vu qu'on me l'a dit souvent, parce que tu parles beaucoup, hein. J'ai dit, ah, OK, j'étais faite pour la communication. Puis j'ai été là-dedans. Ça l'a bien été. Puis en même temps, avoir un hobby, c'est comme te divertir, mais pour toi-même. C'est comme si tu étais ton propre spectateur. Tu regardes ce que tu as fait, puis tu te dis, waouh, ça c'est moi. Et en même temps, c'est bien. Quelqu'un qui n'a pas ce hobby-là, il ne fait pas d'aller jouer au golf, là. Mais tu sais, je veux dire, un hobby où est-ce que c'est une partie de toi que tu laisses.
Ouais. Moi, vous avez donné des trucs qui sont quand même accessibles pour tout le monde. Moi, je vais en donner des peut-être plus difficiles, okay, pour vraiment vivre dans l'insécurité. Premièrement, pas avoir d'assurance. Moi, je me rappelle le jour que je suis allé créer mon compte à la banque où la personne veut me vendre des assurances. Je dis, mais madame, tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Elle ne me comprenait pas. Puis chaque fois que quelqu'un m'appelle pour des assurances, j'y réponds cette question. Et ça, on peut l'appliquer en sexualité aussi. Ne cessez de vous protéger. Vous allez voir que vous allez être dans une insécurité incroyable. Bon, toi, tu es marié, c'est correct, vous vous connaissez, mais quelqu'un que tu arrives tu mets dans ta vie que tu ne connais pas, il y a un moment là, d'insécurité totale. Mais si tu fais confiance à ton être, si tu fais confiance à ton intuition, tu ne peux pas te tromper parce que la personne va te ressembler. Et moi, j'ai eu des moments de jouissance incroyable où je ne savais pas. Là, je ne savais pas si la fille avait quelque chose ou elle avait. Si c'était pas clair, mais je me faisais confiance. Et puis, mais jamais rien arrivé. À l'âge de 39 ans, j'ai jamais attrapé de maladie transmissible sexuellement. Et pourtant, moi, je me protège pas. Sauf qu'il y a comme un thrill, il y a comme la bienheureuse insécurité, pour moi, ça l'évoque aussi un sentiment d'orgasme.
D'excitation.
Parce que Alan Watt était un être éveillé, c'est mm-hmm. un homme de conscience. Donc, quand il parlait de cet état, c'est l'état de l'éveil, c'est l'état de l'éveillé. Que je pourrais. J'aurais un autre exemple, là, mais je vais vous laisser, peut-être si vous avez d'autres exemples avant la pause. Non? Mais il y a un livre qui s'appelle Confession. Non, c'est d'un yogi. C'est quoi donc?
Confession.
Pas confession, c'est l'histoire d'un yogi. Mm-hmm. En tout cas.
Pranayanda.
Ou quelque chose comme ça. On n'est pas clair, là, mais c'est. Autobiographie d'un yogi.
Oui, c'est ça.
Ce qui m'avait fasciné, moi, c'est qu'il partait comme ça, sans rien. Il n'y avait même pas d'argent, pas de nourriture. Il s'en allait dans une autre ville avec son frère. Son frère était complètement angoissé. L'autre, il disait « Relax, relax, tout va bien aller. » Il arrivait dans l'autre ville, il y a quelqu'un qui reconnaissait que c'était un saint. Il l'invitait à manger, il lui donnait un endroit pour dormir. Et ça se faisait de ville en ville.
Ouais.
Et ça, moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que je faisais ça à ma manière aussi, avec l'aide sociale, avec le fait que je ne voulais pas travailler. Mais on va en parler après la pause. On va continuer avec ce thème qui est bienheureuse insécurité. Et en entre-temps, on va se laisser sur une chanson.
L'histoire de Loulou Lapierre, une petite mère ordinaire qui travaille à temps partiel comme femme de chambre dans un hôtel. Elle endure dans son petit deuxième la vie triste d'un HLM et des matinées toujours blêmes. Elle a pas 25 ans et déjà trois enfants de deux pères différents. Ils se sont épanouis dans l'air en la laissant en misère sans pension alimentaire. Joyeux calvaire sous un séant stupo entre les caisses de bière et les bébés des clos. Joyeux calvaire pour Loulou Lapierre qui aime autant se dire qu'au fond la vie est pas si pure. Elle est à côté avec un couplot, un pauvre type toujours pacté qui joue aux jeux vidéo, n'en a rien de ses journées. Dans toutes ses après-midi et puis soir il sort avec ses amis pour faire la rumba toute la nuit. Il déteste les enfants, d'ailleurs ils en veulent tout le temps, puis ils pètent les plombs tout bouchant. Mais quand elle parle de l'arquer, il se met à la supplier comme un idiot sans fierté. Joyeux calvaire sous un séant stupo entre les caisses de bière et les bébelles des flots. Joyeux calvaire pour Loulou Lapierre qui aime autant se dire qu'au fond la vie est pas si pire.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est la bienheureuse insécurité. On a parlé de beaucoup de sortes d'insécurités, matérielles, sexuelles, émotionnelles, mais il y a aussi intellectuelles. Hein. La science, pour moi, est une forme de baume. Hein. Les scientifiques, aujourd'hui, ils croient qu'ils ont les réponses à tout et après 15 ans, tout ce qu'ils ont dit n'est plus valable. Et moi, je trouve que les scientifiques sont des clowns. On devrait rire de ce qu'ils nous disent parce que, contrairement aux philosophes qui ont dit des choses il y a à peu près 2000, 3000 ans qui sont encore vraies, des vérités immuables, la science évolue trop rapidement, elle change trop rapidement et elle table sur cette insécurité. Les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est l'univers, que c'est quoi la réalité, etc. Mais est-ce que les gens sont plus heureux aujourd'hui? Moi, je trouve que non. Je trouve que c'est un des moments les pires de l'humanité où les gens sont malheureux, seuls, malades. Alors qu'on a des technologies pour aller sur la Lune, on n'a pas de technologie pour sauver les gens des maladies.
Tu as raison, le prêtre de l'ancien temps a été remplacé par le médecin avec la tunique blanche. Hein. C'est ça le nouveau prêtre, hein. C'est lui qu'on s'agenouille devant, qui possède la vérité des connaissances. Mais comme tu dis, c'est des connaissances de quoi? De 100 ans d'âge? Ça ne fait pas longtemps hein, que la technologie moderne, la pharmacologie, l'étude de la médecine est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de réserves que j'ai moi aussi là-dessus. Je me tiens loin des médecins dans la mesure de possible, dans le sens que je suis content qu'ils existent parce que s'il y a quelque chose d'urgent et une urgence médicale, je suis content d'avoir un médecin nord-américain. Mais dans ma routine, j'évite les urgences, j'évite les situations qui m'amènent dans les urgences et je me maintiens bien sans nécessiter ça, tout ça. C'est encore de la propagande encore, et puis c'est encore une... Puis même encore, quand tu dis la science tantôt, elle n'est pas utilisée pour le bien-être de l'homme. Elle est réservée pour des corporations, pour de la manipulation. Pourquoi on n'a pas des communications gratuites? Regarde le cellulaire en ce moment. Ça, c'est juste une manière de contrôler une bande de fréquence puis de charger comme un parcomètre l'usage pour le temps qu'on s'en sert. Mais c'est pas nécessaire, ces choses-là. On pourrait avoir un dispositif qui opère sur une bande de fréquence qui serait gratuite à tout le monde. Il n'y aurait rien à maintenir là-dessus. Des machines pourraient maintenir ça. C'est absolument...
Mais il faudrait que les gens soient plus vivent plus dans cette bienheureuse insécurité parce que là, les gens ont besoin de cette structure. Ils veulent être sûrs d'avoir l'Internet parce que c'est important. Ils veulent être sûrs d'avoir le retour. Mm-hmm. Ils sont prêts à s'endetter pour avoir ces objets qui, de toute façon, une fois qu'ils vont être payés, ils vont être rouillés, ils vont être finis. Alors que, tout simplement, il y a tellement de solutions aujourd'hui. Si on utilise notre imagination, juste à Montréal, par exemple, il y a Car2Go maintenant. Mm-hmm. Pourquoi avoir une auto? Moi, je reste dans un quartier quand même central, donc il y a des autos partout. Là. Il suffit de checker sur la carte, aller la prendre. Ça coûte moins cher qu'un taxi.
Exact.
Je veux dire, waouh, enfin. Puis c'est une auto propre là, quand même. C'est des petites autos et ils sont pas électriques, je pense, mais en tout cas, ils sont très propres là, comparé aux grosses autos qu'on pouvait avoir il y a 40 ans.
Moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis comme une auto et puis je suis très heureux de ça. Ça fonctionne très bien pour moi. C'est à 2 minutes de marche de chez moi. J'ai maintenant une flotte de milliers de voitures à ma disposition n'importe où sur l'île de Montréal. Au lieu d'avoir un véhicule qui me coûtait tellement cher, j'étais en train de payer l'hypothèque de mon garagiste. Donc, je veux dire, pourquoi je veux ça? Je veux pas ça. Puis en plus, la possession d'une voiture amène l'attention à la voiture. Donc, il faut que tu y penses à la voiture. Pense à les pneus, à la maintenir, tout ça. Donc, de l'attention que je veux mettre sur d'autres projets et du temps et de l'argent que je veux mettre ailleurs. Donc, dans ce sens-là, pas besoin d'une voiture, mais c'est un bon truc. Je pense que aussi on pourrait mentionner que on a parlé de l'appréciation tantôt, puis développer ce sens d'appréciation est toujours précieux comme point de départ à l'insécurité. Après, apprendre à apprécier le silence. Se créer un espace, un petit sanctuaire personnel où ce qu'on peut se ressourcer. Des fois, il faut être aussi très sélectif de nos choix de médias et d'écouter des nouvelles. Moi, ça fait longtemps que je n'écoute plus la télévision. Dire à certaines... des fois, certaines opportunités, on se doit dire des fois non merci et de réaliser le coût de ne pas avoir dit non merci. Il y a des implications des fois quand on choisit des choses et au lieu d'avoir dit non merci, on s'embarque dans quelque chose qu'on aurait dû refuser. Donc, c'est encore un éveil de ce côté-là qui nous ramène à la conscience, qui nous ramène à de la centration, qui nous ramène à savoir qui on est dans le chemin qu'on poursuit.
Et je pense que c'est surtout de ne pas chercher à tout contrôler. Bon, c'est sûr qu'on peut être en maîtrise, puis c'est sûr, moi, il y a des grands axes dans ma vie que je veux maîtriser. Là, je veux être sûr que je peux payer mon loyer pour les 16 prochains mois, par exemple. Mais je ne deviens pas fou avec ça non plus. Je veux pas travailler comme un fou, puis de plus avoir de temps, là, vraiment, pour plus rien faire, puis d'être fatigué. Déjà que je suis obligé de travailler présentement pour gagner de l'argent, ça, franchement, je trouve que c'est une imposition, mais je le fais pas par insécurité, je le fais parce qu'il faut absolument que je paye 1 500 par mois, loyer, téléphone, électricité. Mais quand tu gagnes plus, puis que tu engranges, là, je pense que ça devient de l'insécurité. Mmh. Et puis, combien de gens vont engranger comme ça? Ils vont dire, quand je vais prendre ma retraite, je vais y aller. Mais il arrive le temps de la retraite, puis ils sont impotents, ils sont, sont incapables de profiter de leur argent. Mmh. Et ça, je trouve ça un peu ridicule. Mais...
Il faut se ramener à la simplicité, mais sans nécessairement dire l'austérité. On peut vivre plus simple, on peut vraiment, là, autrement dit, l'image qui me vient à la tête, c'est fait à vendre de garage, là, puis débarrasse-toi des trucs qui prennent de la place dans ta vie et puis qui te demandent plus d'attention, de coupe et d'argent et qui ne te sert à rien, donc dans le sens de la simplification. Des fois, quand je regarde ce que j'ai, je suis vraiment des fois submergé par des trucs puis des avoirs que je devrais me débarrasser juste pour faire de l'ordre et puis rendre ça plus smooth. T'sais. J'aurais moi-même une vente de garage ou deux à faire. Donc, être simple, mais sans nécessairement se débarrasser de ce qui est important.
Et tout ça, je trouve que c'est encore une question de confiance finalement, parce que c'est accepter de s'arrêter deux minutes pour se poser les bonnes questions, puis ouais. Accepter de se remettre en question, parce que mine de rien, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui ne veulent pas le faire, ça leur fait peur ou ça leur donne plus de cette insécurité-là. Donc c'est ça la question, c'est accepter toi de te remettre en question, puis de voir c'est quoi ton essentiel et tes besoins essentiels à toi finalement. Puis ça, c'est pas toujours facile. Puis tu disais apprécier le silence. Mm-hmm. Ça, je trouve que c'est presque le plus dur à faire. Aujourd'hui, on est habitué à avoir de la musique dans les oreilles, on est habitué à parler à quelqu'un. C'est très dur pour les gens de s'asseoir puis d'être tout seul. Ouais. Moi, par exemple, j'aime tellement ça quand je me prends une heure pour moi puis que je décide que c'est juste comme, ou même une demi-heure, là, mais c'est accepter d'aller, OK, juste moi avec moi-même. Puis moi, ça me fait pas peur, mais je comprends.
Moi, ça peut pas ne pas faire partie de ma vie maintenant. J'ai besoin là, de fermer le volume, là, fermer tout puis me recentrer. C'est essentiel.
Il faut s'accepter soi-même ses limites, son ignorance sur certains sujets. Ouais. Quand on fait ça, je pense qu'on est capable de vivre dans le ici maintenant. Moi, je reviens à mes chats. Mes chats sont des professeurs incroyables dans ce domaine. Ils se foutent totalement. Eux autres, la bouffe est dans le coin. Ils savent qu'elle va être là. Là. S'il n'y en a pas, ils vont aller la chercher chez des voisins. Chez mes chats, je ne sens pas le stress du futur. Et je les regarde aller, puis j'étudie avec eux. Je sais que c'est probablement des maîtres incarnés dans un corps de chat qui viennent juste retravailler l'énergie autour de moi, puis m'enseigner à relaxer. Et dans moi, dans le mot bienheureuse insécurité, moi, je vois une lumière toujours. C'est lumineux. C'est pas une insécurité maladive, c'est une insécurité bienheureuse. D'être heureux avec ce que tu as. Puis d'accepter l'impossible, l'imprévisible. Accepter, les fois que vous avez rencontré des gens importants dans votre vie, relations amoureuses, même en affaires, c'est toujours imprévisible. On peut prévoir certaines choses, mais les meilleurs dans ma vie, moi, c'est toujours quelque chose qui est venu par la bande sans que je l'aie prévu. Je l'ai accepté parce que j'étais dans un état d'ouverture. Et soit dernièrement, j'ai un petit chat qui vient d'arriver chez moi, puis c'est lui qui s'est présenté chez moi. Tu as un exemple, toi, Pascal?
Il y a un mot que tu as dit, accepter. C'est vrai. C'est assumer aussi. Aimer qu'est-ce qu'on a là, au moment qu'on l'a. C'est même plus que... Ça vaut plus que toutes les assurances du monde. Parce que quand tu es bien avec ce que tu es... Juste un exemple. Il y a une femme que je connais depuis très longtemps qui elle m'a appelée parce qu'elle avait un vieux divan qu'elle voulait se débarrasser. Là, je suis allée chez elle voir ça, le divan, puis il était correct, là, le divan. J'étais comme, pourquoi tu veux te débarrasser d'un divan qui est encore bon, tu sais? Elle dit, oh, j'en ai acheté un tout neuf, regarde-les. Là, elle paye environ 102$ par mois, là. Là, j'étais comme, OK, garde, je vais prendre ton divan et je vais te rendre service. Je vais le vendre pour toi. Sur qui j'ai, parce que c'est ridicule. Fait que je lui ai vendu à quelqu'un qui, il venait tout juste d'arriver ici, au Québec, puis il se cherchait un divan pas cher. Je l'ai vendu à quoi? 30$, là, genre? Ah ouais, pas cher du tout, là. Il était comme, oh mon Dieu, 30$, un divan, je capote. Il dit, ben, c'est parce que c'est ridicule de donner à quelqu'un que moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, là. Fait que j'étais comme, c'est tellement, je trouvais qu'elle avait un côté gaspilleur, quelque chose qui était, tu sais, je me dis, pourquoi t'es pas heureuse avec qu'est-ce que t'as là? Il est encore bon, le divan. Puis c'est ce côté insécure, j'ai peur qu'il pète, j'ai peur, mais il pètera pas si tu t'en sers bien, puis tu sais, c'est tout ça. Puis quand je suis arrivée chez elle, j'ai remarqué que c'est vraiment la femme qui me gardait avant, qui avait un garde-manger avec un surplus de bouffe, puis elle est toute seule. Puis je me suis dit, à ce point-là, c'est je veux pas vivre demain, moi. Je veux pas vivre avec ce côté qu'il faut qu'il manque absolument de rien, là. T'sais, c'était, je trouve, il y avait un over de tout. Et même elle, son énergie était accaparante. T'sais. Donc, je me suis dit, elle doit tellement être malheureuse d'être seule. Elle est veuve, oui, mais elle doit tellement se sentir seule pour qu'elle soit remplie comme ça. Là. J'ai jamais vu quelque chose de même toute ma vie. Elle a 4 TV dans un 5,5. OK, j'essaye de comprendre. Là. Fait que là, j'étais comme, voyons donc. Fait que je trouvais que c'était too much. Puis là, je lui ai donné une idée. Regarde, je vais t'aider à faire du ménage chez vous. Fait qu'on a commencé à vendre plein de trucs. Puis ça commençait à se vider. Puis j'ai vu vraiment son énergie commencer à être... Ça commençait à être beau. Elle était moins étouffante, moins... Puis je lui ai dit, mais t'es une personne à la retraite. Va voir du monde. C'est le temps. Tu sais, je veux dire, je comprends pas comment ça se fait que quelqu'un peut être aussi castré dans son 5,5. Puis c'est... Elle a plein de choses... des boîtes, plein de choses. Et moi, je suis quelqu'un de libre, donc je me sentais comme vraiment étouffée et je trouvais qu'elle était hyper insécure. Tout ce qu'elle faisait dégageait quelque chose de non linéaire qui venait pas me chercher. Donc, je l'ai aidée et je me suis dit, je ne veux pas être entourée de ce genre de personnes-là qui gaspillent pour rien. C'est du gaspillage de temps, d'énergie et de vie, je trouve. Vraiment, là.
Bref, mon conseil personnel à mes auditeurs, à vous, c'est de faire confiance. Mmh. Faites confiance à votre être, ou vous pouvez dire la vie, peu importe. Faites confiance, puis laissez les choses se produire telles qu'elles doivent se produire. Et en voulant trop contrôler, on brise souvent la grande image. Mmh. Bien, c'est sur ce qu'on vous laisse. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine encore. Et on vous laisse avec une chanson de Salomé Leclerc qui s'appelle « Tourne encore ». Puis merci à tous. On vous invite à écouter l'émission sur proposurlebonheur.com en podcast et je remercie Radio H2O de diffuser notre émission. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
J'aimerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il me faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain, marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Seul, que je sois folle.